Décrypter votre personnalité, anticiper vos goûts, prédire vos comportements, voilà ce que sont capables de faire aujourd'hui les mathématiques et les algorithmes avec ce qu'on appelle le Big Data prédictif. Toutes les données que vous laissez traîner sur Internet sont minutieusement décortiquées, récupérées afin de tracer vos habitudes. Alors comment fonctionnent justement ces redoutables machines? Que peuvent-elles véritablement prédire et dans quel domaine sont-elles utilisées? C'est ce qu'on va voir avec mes invités et vos messages dès maintenant. Donc pour parler du Big Data prédictif, franceinter.fr et le mot-clé « l'attaque sur les réseaux ». À la une de la science aujourd'hui, une prise de sang pour vous aider à arrêter de fumer. Une étude affirme que l'efficacité de l'arrêt du tabac dépendrait de la vitesse avec laquelle un fumeur élimine la nicotine de son organisme, un paramètre qui pourrait se mesurer via un test sanguin. On en parle avec le tabacologue Max Budowski et le docteur Dominique Dupagne. Voilà donc pour le sommaire de cette nouvelle Tête au carré, réalisée par Violaine Ballet, préparée par Sylvain Guilbeault, Olivier Monod et Fanny Cohen-Moreau.
La Tête au carré, le magazine scientifique de France Inter. Mathieu Vidard.
David Bessis, Gaël Varocco, Gilles Genvy, bonjour à tous les trois, bienvenue cet après-midi. Est-ce qu'avec le Big Data prédictif, vous êtes capable, même avant nous, de savoir exactement ce qu'on va acheter, David Bessis?
D'en avoir une idée en tout cas, pas une certitude, mais de savoir que vous avez sans doute 10 ou 20 fois plus de chances d'acheter tel téléphone que tel autre.
Donc vous allez anticiper tout ça, c'est ça?
Si je sais 2-3 choses sur vous, je vais y arriver.
Oui, ouais, 2-3 choses, voire plus, hein. On va voir ça avec vous. Gaël Varocco, est-ce qu'on voit vraiment nos habitudes et est-ce qu'on peut en tirer des conclusions fiables?
Fiables, entièrement non, bien entendu. On ne peut pas deviner entièrement ce que vous pensez pour l'instant. Mm-hmm. Cependant, on peut avoir des idées. J'ai pas besoin du big data pour avoir des idées sur vous, mais si j'ai du big data, j'en aurai plus.
Mm-hmm. Gilles Genvy, qu'est-ce que ça vous inspire, vous?
Par exemple, le fait qu'on puisse recommander des films en fonction des goûts des utilisateurs, et plus on a de données, en fait, plus les recommandations seront pertinentes.
Ouais. Vous êtes un peu les Madame Irma du 21e siècle, hein, finalement, avec cette boule de cristal qu'on pourrait nommer Big Data, c'est ce qu'on va voir avec vous. Vous allez nous expliquer comment nos données sont utilisées, et pour quel usage, hein, parce qu'évidemment, là se profilent déjà différents domaines et différentes applications. Les questions des auditeurs vont arriver sur franceinter.fr et sur les réseaux. À la une de la science aujourd'hui, du nouveau sur le sevrage tabagique.
Quand je vois cette cigarette, je me dis, mais comment j'ai fait pour me passer d'un bonheur comme ça pendant autant d'années, d'un plaisir comme ça? Je suis tellement content, ça y est, j'ai réussi à commencer. Alors mes copains, ils en reviennent pas, ils me demandent tous, mais comment t'as fait, quoi? Comment t'as fait? Je dis, attendez les gars, attendez, comment j'ai fait pour commencer la cigarette? Il y a un mot, la volonté, ok?
Voilà, c'est valable dans tous les sens d'ailleurs, on va le voir. Les fumeurs ne sont pas tous égaux devant le sevrage de la nicotine. Selon des chercheurs américains, la vitesse avec laquelle un fumeur élimine la nicotine de son organisme permet même de déterminer le meilleur traitement pour l'arrêt de la cigarette. Pour en parler, le tabacologue Max Budowski et notre médecin Dominique Dupagne, bonjour.
Bonjour.
À tous les deux.
Bonjour.
Bienvenue. Alors selon cette étude, le sevrage tabagique serait plus efficace en effectuant une prise de sang pour justement déterminer la vitesse d'absorption de la nicotine du patient. Est-ce que c'est le test que tout le monde attendait, Dominique Dupagne, pour aider les personnes à arrêter de fumer?
Ah ben, je pensais que Max allait répondre plutôt à cette question, mais il est clair que pour l'instant, on n'a pas l'impression que ça va vraiment révolutionner la prise en charge de la cigarette.
Bon, Max Budowski, pour vous?
Ben, vous savez, les traitements, c'est moins de 10% de réussite du sevrage tabagique. 90% est d'ordre psychologique. Donc, moi, j'ai trouvé l'étude très intéressante sur le plan scientifique, mais sur l'apport pratique, il est quand même assez faible.
Oui, donc on ne doit pas courir tout de suite pour aller se faire tester?
Surtout pas.
Surtout pas, ça ne servira à rien. Oui. Pourtant, ce n'est pas très cher, apparemment.
Oui, ce n'est pas très cher. C'est de l'ordre de $50, donc 40 euros. Mais quelle est l'efficacité réelle des médicaments? Actuellement, on ne le sait même pas nous-mêmes. Mmh. Donc, on sait que les patchs ont un certain degré d'efficacité. Mais derrière, il y a toute la motivation, il y a l'état psychologique du patient. Il y a beaucoup de choses qui sont derrière. Et donc, la réussite ne peut pas dépendre uniquement du traitement pharmacologique, mais aussi d'autres facteurs.
Ouais. Vous, tabacologue, vous ne connaissez pas vraiment l'efficacité des médicaments prescrits?
franchement...
Quel drôle d'aveu, quand même.
Non, il est raisonnable. Il sait qu'en fait, nous, la médecine, on a confisqué le sevrage tabagique, qui est en effet une affaire de psychologue. C'est de la psychologie. Voilà. Arrêter de fumer, tout le monde sait le faire. C'est facile. C'est ne pas refumer qui est difficile. Et pour ça, c'est pas de la volonté qu'il faut, parce que la volonté, ça fait souffrir. On ne fait pas ce qu'on a envie de faire. C'est de la détermination. C'est-à-dire d'avoir dans sa tête, dit à un moment, stop, je ne veux plus être fumeur et je vais être capable de résister à la tentation. Mais il y a une préparation psychologique dans laquelle les médicaments ne sont qu'une amorce initiale d'efficacité extrêmement modérée.
Alors Max Budowski, justement, dans cette étude américaine, on parle de la vitesse de métabolisation de la nicotine. Ça joue vraiment un rôle important sur la facilité ou non, justement, d'arrêter de fumer ? Et nous sommes inégaux face à ça ?
L'étude est portée sur l'efficacité de deux traitements. Alors c'est une étude qui a été très bien menée en double aveugle, c'est un essai contrôlé, et avec quand même une puissance assez forte puisqu'il y a un certain nombre de patients. Mais à l'origine, quand même, il y avait plus de 10 000 patients, ils en ont gardé que 1 200.
Oui.
Donc ça montre quand même les limites d'une telle étude. Et elle a été très bien pratiquée avec médicaments et placebo, et patch et placebo, et varenicline et placebo. Ça a été très bien mené. Mais le résultat, quel est le résultat? On dit simplement que quand la nicotine, la vitesse d'élimination de la nicotine est normale ou peut-être plus rapide, la varenicline marcherait un peu plus. Et quand c'est un peu plus lent, ce seraient les patchs. Hein, ce qui est un peu plus logique, puisque les patchs, c'est la nicotine aussi. Mais
c'est pas intéressant de le savoir, selon vous? Apparemment, non. Hein.
Non, je pense que c'est une voie de recherche qui peut être intéressante, qui peut être développée, mais dans la pratique, actuellement, elle ne peut pas nous apporter beaucoup de choses. Mais il faut le développer. C'est peut-être quelque chose d'intéressant.
Dominique Dupagne, vous, votre avis sur cette différence sur la métabolisation de la nicotine ?
C'est pas vraiment nouveau. On sait qu'il y a des gens qui éliminent plus vite la nicotine. Ce sont des gens qui refument plus vite après avoir fumé une cigarette.
Ouais, ils ont besoin d'en remettre plus rapidement.
La dépendance est liée à la privation, à la récompense. Donc on manque, on a satisfait. On manque, on est satisfait. Ouais. Plus c'est rapproché, plus c'est violent, plus on est dépendant. Et donc il y a une corrélation, il y a un lien statistique entre le fait d'éliminer rapidement la nicotine et d'être un gros fumeur qui fume beaucoup et qui est très accro. Ouais. Donc en fait, rien qu'en interrogeant nos fumeurs, on avait quand même une idée, même s'il n'y a pas que cet élément métabolique. Ouais. Hein.
Sauf que là, les Américains justement disent, en faisant un test sanguin, on va pouvoir connaître exactement la vitesse de métabolisation et donc donner le traitement approprié pour la réussite du sevrage.
À un moment, on avait un test en 25 critères pour savoir si les gens étaient dépressifs et on a découvert qu'il suffisait de demander aux gens « êtes-vous déprimé ?» pour avoir exactement le même résultat. Donc parfois, le test habille quelque chose qui est une réalité qu'on peut appréhender de façon beaucoup plus simple.
Et puis on part du principe qu'on va déjà traiter. Or, nous, c'est d'abord, on veut connaître la motivation, on veut connaître l'état psychique, on veut savoir pourquoi il veut s'arrêter maintenant. Il y a beaucoup d'autres paramètres.
Est-ce qu'il est prêt ?
Et ça, est-ce qu'il est prêt ? Oui, selon le Prochaska Clémenté. Donc, vous savez qu'on n'est pas du tout prêt. On peut être prêt, on va être prêt, on va le faire. Et puis, malheureusement, soit il y a un échec, soit, par contre, il ne reprend pas la cigarette.
Oui. D'ailleurs, qu'est-ce que vous avez comme taux de réussite, vous, en tant que tabacologue ? Vous avez une estimation c'est... là-dessus ? Pourquoi vous riez, Dominique Dupagne ?
Parce que c'est une question qu'on ne pose pas, enfin.
Voilà. Ah bah, si, justement, ça m'intéresse.
Alors, je vais vous dire franchement... Je
100%
pas...
des gagnants, bien sûr, leur chance. Hein.
Ce n'est pas valable, puisque moi, j'ai de la chance d'avoir des patients qui viennent de l'extérieur et mes propres patients, parce que je suis médecin de famille aussi. Et chez, chez ma patientèle de médecin de famille, je dois avoir, au bout d'un an, je dis bien au bout d'un an, hein, oui. Parce que ce n'est pas 7 jours comme dans l'étude. Au bout d'un an, si j'ai allé à 10%, je suis content.
De réussite,
voilà.
C'est pas beaucoup, dites donc. Il faut changer de métier. Hein.
Non, pas du tout. Parce que la seconde fois, quand ils essayent de... Eh bien, on a un taux quand même un peu plus important.
D'accord.
Là, je ne vous donne pas le taux général, je vous donne de ceux qui font
le truc, c'est qu'il faut venir vous voir plusieurs fois, en fait, voilà. Pour que ça fonctionne.
Oui. Moi, mon taux de réussite a beaucoup augmenté quand j'ai arrêté de fumer. J'étais beaucoup plus crédible, en fait. Et ça a impressionné mes patients de savoir que j'y étais arrivé. Donc, il y a plein d'éléments qui jouent, qui sont immesurables.
Bon, Dominique, ce que vous nous dites, c'est que plutôt que d'aller voir un tabacologue, il faut mieux aller voir un psy, alors, c'est ça ?
Non, je n'ai pas dit ça.
Ah, mais presque,
quand même. J'ai dit que les bons tabacologues sont psy. C'est exactement ce que dit Max Budowski. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on va arrêter de fumer grâce à un médicament miracle.
Mais là, vous allez faire bondir les psys.
Non, pas du tout. Pourquoi ? On va arrêter de fumer grâce à une démarche psychologique qui est psy et qui va faire en sorte de lutter contre cette addiction et trouver une détermination suffisante pour se priver de la cigarette définitivement.
Le médicament n'est qu'un seul moyen pour aider, mais ce n'est pas le moyen pour se sauver.
Ouais. Qui finance ce genre d'études, là, comme celle qui vient de sortir là, cette semaine, par les Américains?
Ça a été probablement...
À l'ère de la e-cigarette.
Non, non, ce sont des organismes publics, là, qui le financent.
Là, c'est l'Université de Pennsylvanie qui l'a fait. Bon, les auteurs ont tous des conflits d'intérêts, quand même, avec les deux laboratoires qui fournissent les patchs.
Évidemment.
Et
le test, sans doute.
Et le test, probablement, c'est certain. Mais là, c'est une étude qui a été très bien menée, hein, sur le plan scientifique, parce que c'est l'Université de Pennsylvanie qui est responsable de cette étude.
Bon, donc, de toute façon, on n'a toujours pas trouvé le traitement miracle, hein, Dominique.
Oui, et puis ça veut dire aussi qu'une étude peut être très bien menée et n'avoir strictement aucun intérêt.
Eh bien, voilà, c'est pour ça qu'on en parlait aujourd'hui dans La Tête au Carré. Merci
beaucoup.
Je dirais
beaucoup. Un intérêt pratique.
Merci, Max Budowski et Dominique Dupagne. Allez, et puis dans le reste de l'actualité scientifique, il y aurait un lien entre la testostérone et le goût pour le piment. Ça va faire plaisir à Dominique. Peut-être une nouvelle stat à la con. Des chercheurs de Grenoble ont observé 114 hommes pendant une séance de dégustation. Les participants présentant le plus haut niveau de testostérone, Dominique, étaient ceux qui mettaient plus de piment dans leur plat. L'étude intitulée « Certains l'aiment chaud » sera publié prochainement dans la revue scientifique Physiology and Behavior. Une comète a observé à l'œil nu, Lovejoy, c'est son nom, va bientôt passer près du Soleil, ce qui va augmenter son dégazage et donc sa visibilité. En ce moment, cette comète traverse la constellation du Taureau et sera visible à partir du 16 janvier dans celle du Bélier. À l'œil nu, Lovejoy ressemble à une tache grisâtre sans queue lumineuse. Vous n'avez plus qu'à trouver donc un bon site d'observation éloigné des villes et guetter donc une éclaircie en début de nuit. Et puis le monstre du Loch Ness a bel et bien existé. Des chercheurs de l'université d'Édimbourg ont retrouvé le fossile d'un reptile géant de 4 mètres sur l'île de Skye en Écosse. Cette nouvelle espèce ressemblerait à un grand dauphin et vivait il y a 170 millions d'années aux côtés des dinosaures. Et seulement dans cette partie du monde, un dessin de ce monstre réalisé par l'université d'Édimbourg est à voir sur la page Facebook de La Tête au Carré. Nous savons déjà ce que vous allez consommer. Dans un instant, les grands Manitou du Big Data prédictif sont les invités du dossier de La Tête au Carré. We'll be right back. Curtis Harling avec Keep on Shining.
Il arrive parfois que nous désespérons de l'état de ce monde. Ah, les savants.
La tête.
Que n'inventeront-ils encore
carré
dans les temps à venir?
Le magazine scientifique de France Inter.
Ridicule tout ça.
Salut Kerem.
Salut Bruno, ça va?
L'idée, c'est d'analyser le parcours du consommateur. Par exemple, si quelqu'un va dans un café juste à côté d'ici, disons qu'il est 2h de l'après-midi, un samedi. Nous, on peut savoir que c'est l'heure à laquelle il aime faire ses courses. Si on peut prédire où il va aller après son café, alors on pourra l'influencer. Sur son chemin, on peut lui envoyer un message pour lui conseiller l'un des produits que vous vendez. Qu'est-ce que vous en dites? Ça peut vous intéresser?
Bien sûr. On voit bien le potentiel de votre système pour améliorer nos ventes. Et en même temps, il ne faut pas matraquer nos clients avec plein d'offres quand ils s'approchent de nos boutiques.
Je suis d'accord. Il ne faut pas être trop intrusif. Ce qu'il faut, c'est trouver le bon équilibre, en informant l'acheteur sans le harceler. Personne n'a intérêt à franchir la ligne rouge de la vie privée.
Voilà, extrait d'un documentaire Big Data, les nouveaux devins, qui avait été diffusé sur Canal+. Vos données sont une mine d'or, vous l'avez compris, pour le Big Data prédictif. C'est le thème de notre dossier cet après-midi, donc dans la tête au carré, pour comprendre comment les algorithmes utilisent justement nos informations pour anticiper nos goûts, nos comportements d'achat et dans beaucoup de domaines qu'on va explorer cet après-midi avec mes invités. Vos questions, donc franceinter.fr et les réseaux avec le mot-clé l'attaque. Et David Bessis qui est avec nous. Vous avez été mathématicien, c'est dans un autre temps maintenant.
Effectivement.
Au CNRS, et vous êtes actuellement le fondateur de Tiny Clue, c'est une société de services. Qu'est-ce que vous proposez exactement?
On travaille principalement pour des e-commerçants, des grands e-commerçants et des tailles plus modestes.
Donc des commerçants virtuels, hein,
voilà,
sur le net.
Qui peuvent avoir parfois quelques dizaines de milliers de clients ou plusieurs millions de clients.
Mmh.
Et ils savent un certain nombre de choses sur ces clients. Parce que quand on a des clients, ben on a un historique de ce qu'ils ont acheté chez nous. On sait aussi quels produits ils sont venus voir sur le site, quelles recherches ils ont fait sur le site. Et évidemment, cette information, ben, elle révèle des choses sur les clients.
Et c'est vous qui leur donnez les infos, en l'occurrence?
Alors, les infos, ce sont leurs informations. Nous, on travaille pour le compte de nos clients. On n'est pas, notre mission, ce n'est pas de ficher les gens. On n'est pas en train de construire une base de données. Chacun de nos clients a sa propre base de données, mais on aide nos clients à tirer de l'intelligence de ces données et à les utiliser intelligemment.
Oui. Gaël Varocco, vous êtes vous chercheur en apprentissage statistique et imagerie cérébrale à l'INRIA. Oui. Qu'est-ce que vous faites alors entre le cerveau et les ordinateurs?
Mais de nos jours, on a des appareils de plus en plus puissants pour faire des images du cerveau, y compris des images de fonctionnement du cerveau. Et donc moi, mon travail, c'est d'utiliser des ordinateurs et des algorithmes pour mieux analyser les images de fonctionnement du cerveau.
Et si pour on en a... faire quoi exactement?
Alors pour en faire quoi? Je m'intéresse avant tout à la recherche fondamentale, qu'elle soit en application neurosciences cognitives, donc compréhension du fonctionnement du cerveau, mais aussi application clinique, tout ce qui est l'étude des pathologies cérébrales.
Et par ailleurs, vous êtes sur un autre projet aussi?
Voilà, par ailleurs, je suis chef de projet du projet Scikit-Learn, qui est en fait un outil logiciel qui est utilisé pour l'apprentissage statistique, donc que nous utilisons pour analyser les données de cerveau, mais aussi bien Tiny Clues ou d'autres personnes pour analyser d'autres types de données.
Voilà, donc ça c'est vraiment sur des grandes, enfin des données très importantes, un nombre de données très importantes, et là aussi ça passe dans vos machines.
Donc notre point fort, c'est les modèles prédictifs. Et parmi les modèles prédictifs, il y en a certains qui sont sur des très gros volumes de données, d'autres qui sont sur de moins gros volumes de données.
Gilles Genevi, vous êtes vous doctorant en deuxième année d'informatique à l'École normale supérieure de Cachan et puis à Supélec. Alors vous avez fait votre thèse justement sur les tests adaptatifs pour comprendre comment optimiser précisément les informations qu'on peut recueillir.
Alors, en fait, donc je suppose que j'ai un historique de plusieurs personnes qui ont déjà répondu à un test de plusieurs questions. Je me demande en fait dans quel ordre. En fait, j'ai plutôt intérêt à poser les questions de manière à avoir maximiser l'information à chaque étape.
Ouais. Donc ça, c'est vraiment un travail sur une hiérarchisation des questions. C'est ça pour arriver en fait à faire en sorte de pouvoir puiser des infos dans ce que les gens vous livrent.
C'est en fait trouver une sorte de manière de poser des questions qui soient plus informatives avec des questions qui soient plus discriminantes. C'est un peu le test dont vous êtes le héros. C'est essayer de faire plutôt qu'un test linéaire où je pose les mêmes questions à tout le monde, réussir à trouver comment, à partir de l'historique des réponses de quelqu'un, je peux trouver la meilleure question à lui poser.
Ouais. Vous avez une passion, c'est le cinéma aussi d'ailleurs. Oui. Hein. Ouais. Et donc vous arrivez à allier la passion et le travail aussi?
Un petit peu, oui.
Qu'est-ce que vous étudiez?
Il y a d'autres... Alors, je m'intéresse à la recommandation de films, et en fait, on peut aussi se demander, étant donné un nouveau venu, en fait, sur quel film on peut le sonder de manière à pouvoir cibler efficacement ses goûts et pouvoir lui recommander des films qui lui plaisent.
Donc ça, c'est pour des sites internet aussi?
Oui.
À terme, ouais. Mm-hmm. Donc si on est en train de taper sur des sites autour du cinéma et qu'on nous propose justement d'aller voir des... Ça se fait déjà, ça?
Oui.
Des préconisations de...
Effectivement. Donc il y a Netflix qui est un site de recommandation de films.
Ouais.
Et il y a aussi Akinator qui est un exemple donc, de génie qui devine en fait les personnages auxquels vous pensez en vous posant des questions de type est-ce que donc, le personnage est réel ou pas. Donc par exemple, si je pense à Nathalie Portman, au bout de quelques questions, je vais avoir est-ce que votre personnage a joué dans Star Wars.
Et voilà, en fait, exactement.
C'est assez épatant en fait.
Voilà, on en parlera avec vous tout à l'heure. On peut jouer justement Akinator, hein, c'est très amusant. Et vous nous direz précisément comment ça fonctionne. Alors le Big Data prédictif, qu'est-ce que c'est exactement? Parce qu'il y a plein de gens qui n'en ont pas entendu parler. Hein. Bien sûr, vous baignez là-dedans tous les jours. Il faut nous expliquer également les ressorts. C'est un mot qui est très à la mode aujourd'hui, Galvarocco. Hein. Qu'est-ce que c'est alors?
Donc si on veut prendre une définition un petit peu formelle d'un technicien qui fait du traitement de données, on définit souvent le big data avec 5 V, donc le volume, les données sont grandes, la vitesse, c'est-à-dire qu'elles arrivent vite ou elles changent vite, la véracité, on a des problèmes de véracité, certaines données peuvent être fausses, certaines données peuvent être justes.
Et le cinquième, qu'est-ce que c'est?
La valeur.
La valeur.
La valeur. Donc, on parle de big data, si on peut tirer une valeur ajoutée. Et donc, ça, c'est peut-être ce qui intéresse plus, non pas le technicien, mais celui qui est du côté utilisation du big data. Et c'est un petit peu l'impact que ça a sur notre société. C'est que de nos jours, on peut trouver de l'information dans de plus en plus de sources de données. Et donc, on a des applications en médecine, en marketing.
Mmh. David Bessis, il y a Haroun Al-Rachid sur Twitter qui nous demande à partir de quel volume de données, justement, on peut parler de big data, alors?
Ah, la taille, c'est quelque chose qui évolue. Je crois qu'en 30 ans, le coût de stockage a été divisé par 100 millions. Ce qui était big il y a 5 ans, les plus vraiment.
Mmh.
En fait, plus que la taille, c'est, comme le dit Gaël, c'est aussi ce qu'on va vouloir faire avec les données, quelle valeur on va vouloir en tirer. Pour moi, la bonne définition du big data, c'est l'idée que les données en elles-mêmes renferment une connaissance, une information qu'avec des technologies nouvelles, on va pouvoir valoriser.
Donc c'est un mot valise un petit peu. Hein.
C'est un mot valise.
On peut y mettre plein de choses.
Hein. Et c'est pour ça que l'adjectif de prédictif est important pour préciser de quoi on parle. J'aurais tendance à opposer le big data prédictif au big data descriptif. Le big data descriptif, c'est quand on utilise des grandes quantités de données, mais en suivant les mêmes modes de pensée, les mêmes modes de raisonnement qu'avant. Mmh. Quelqu'un va formuler une hypothèse. On a parlé tout à l'heure de l'exemple de la corrélation entre le taux de testostérone et le goût pour le piment.
Oui, alors.
Il va faire un test, il va prendre une cohorte, il va avoir un résultat d'analyse, il va décider si c'est vrai ou si c'est pas vrai avec les données. Le prédictif... C'est quand les algorithmes ont eux-mêmes formulé les hypothèses et eux-mêmes prendre des décisions. Et on se rend compte que pour vraiment valoriser des grandes quantités de données, il faut remplacer l'humain, y compris dans la décision.
Oui, c'est ça. Donc on a besoin vraiment des mathématiques, hein, des algorithmes, donc pour fabriquer en fait quoi, des espèces de lois universelles,
hein. De lois. On peut dire que c'est un nouveau mode de connaissance scientifique. Au lieu que ce soit les humains qui formulent les hypothèses, ce sont les algorithmes qui vont... inventer des concepts, ranger les gens en catégories, se rendre compte qu'il y a des affinités entre tel film et tel autre film, par exemple.
Ouais, Gaël Varocco, là, on est vraiment dans des volumes de données et des puissances de calcul totalement exceptionnelles. Enfin, ça dépasse justement le cerveau humain. Hein.
Oui, alors déjà, parce que ça, c'est important. Quand on parle de big data, on parle de données qu'on ne peut pas juste afficher sur un écran et dire « Ah, j'ai vu quelque chose là ». D'où l'importance des mathématiques, de l'algorithmique. Après, comme le disait David, les volumes de données vont énormément varier. Et donc, on va de ce que fait un géant comme Google, où ça se chiffre en volume inimaginable, même pour moi, à quelque chose qui tiendrait sur un bon disque dur moderne.
Ouais. Et concrètement, d'ailleurs, ces données, elles sont où? Quand on parle de data center, par exemple, ça correspond à des lieux... C'est pas du tout virtuel. C'est pas le cloud, c'est pas le nuage, comme on vient de laisser entendre. Ce sont des lieux qui prennent aussi beaucoup de place, d'ailleurs.
Le nuage est incarné par de vrais data centers physiques qu'aucune personne autour de cette table n'est allée voir en vrai, mais qu'on a utilisé à distance en se connectant.
Ouais.
Après, je pense qu'il faut faire une différence entre les data centers un petit peu privés, une grosse entreprise, un institut de recherche comme le mien peut avoir un data center, et les data centers qui sont mis en fait sous forme de service. Et dans ce cas-là, on peut posséder et contrôler son data center, ou ça peut être quelqu'un d'autre qui le fournit comme un service, de même que je vais louer un parking pour ma voiture.
Ouais. Et ça se trouve où alors ? On en a en France des data centers ?
Il y en a en France, oui, il y a un certain nombre d'opérateurs qui en ont en France, il y en a d'autres en Europe. Il y a des règles sur la localisation des données, notamment tout ce qui est nominatif ne peut pas sortir d'Europe. Mm-hmm. Donc il y a un certain nombre de fournisseurs qui permettent au sein de l'Union européenne d'avoir des data centers.
Auparavant, on parlait de la ménagère de moins de 50 ans. Ouais. Ça, c'était vraiment dans l'ancien temps, pour
ça,
le coup.
Temps, ouais.
Mais est-ce que finalement, elle n'incarnait pas aujourd'hui cette cible qu'on pensait bien connaître, en tout cas, surtout sur ses habitudes de consommation? Et là, on est au fond dans cette même problématique avec le data prédictif.
Alors justement, si on fait du big data descriptif, on retombe assez vite dans des variantes de la ménagère de moins de 50 ans. Si c'est pour faire la ménagère de moins de 49 ans et demi parce qu'on a plus de données...
On brosse son portrait, quoi, en fait. Hein. Voilà,
ça, c'est un peu arbitraire. Et moi, ce qui personnellement m'a plu, avec un background très scientifique, parce que j'ai fait de la recherche en maths pendant 10 ans, ce qui m'a donné envie de me lancer dans le big data prédictif, c'est cette idée qu'on allait remplacer les hypothèses arbitraires et les préjugés sociaux par des choses qui allaient être apprises de façon objective à partir des données. Je vous donne un exemple. Chez Tani Clouse, l'un de nos premiers clients, qui était Price Minister, la première campagne qu'on a faite, c'était pour un robot ménager. Il s'agissait de savoir, il y avait un très beau robot ménager, il voulait communiquer sur ce robot, à qui il fallait le vendre. Et évidemment, la ménagère de moins de 50 ans, nos préjugés les plus stupides ne sont pas très loin en fait. Mais les algorithmes nous ont appris qu'en fait, un tiers des gens qui voulaient acheter ce robot étaient des hommes.
Ouais.
Et donc on structure le champ social différemment et c'est l'algorithme qui nous apprend la structuration.
Ouais. Donc ça vous permet de cibler complètement autrement pour vos clients, c'est ce qu'ils demandent, parce que le but c'est de vendre plus pour eux. Donc c'est d'avoir une clientèle plus large et donc de pouvoir s'adresser directement à elle, alors que sans ces algorithmes, on aurait pu passer complètement à côté de ces consommateurs.
On va regarder les consommateurs un par un, avec chaque information qu'on a sur eux, ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont vu, peut-être le choix du domaine internet qu'ils ont pris pour leur adresse mail, ça dit quelque chose sur leur goût.
Ouais.
Et on va personnaliser exactement leur expérience d'achat en fonction de ça.
Alors on va y revenir, on verra avec vous justement quelles sont les données qui peuvent intéresser tout particulièrement. Une question de Hubert, il nous dit ceci: si des robots informatiques peuvent prévoir et anticiper nos désirs, donc le big data prédictif, est-ce que ça signifie que nous sommes tous des automates? Qui veut répondre à cette question, Gaël Varouco?
Notre
libre arbitre là-dedans, alors. C'est terrifiant, parce que c'est vrai qu'on a l'impression qu'on anticipe absolument
tout. On prévoit avec
tout.
Un taux d'erreur. Oui. L'important, c'est de faire mieux que la chance. Plus on fait mieux que la chance, plus on peut avoir un gain quelconque. Mais je ne peux pas entièrement tout savoir sur vous. Je peux avoir des idées sur vous, parce que je vous connais. Et donc, l'algorithme, il apprend à vous connaître. Mais il ne vous a pas supprimé votre libre arbitre. Oui. C'est juste que vous faites vos décisions selon une certaine logique qui vous est propre.
Gilles Genvy, sur la marge d'erreur, justement. Et sur notre liberté à tous.
Moi, je pensais que, par exemple, s'il s'agit toujours d'un test, il y a des gens qui n'ont pas tellement envie d'être... qu'on leur pose des questions qui sont trop faciles pour eux, etc. Et du coup, si jamais on se rend compte que la personne est en mesure de répondre correctement à une question, je ne vais pas forcément la lui poser. Donc, c'est genre... De manière à... Enfin, c'est une recherche d'efficacité. Si jamais je dois poser une question, laquelle serait-elle ? Mais ça ne veut pas dire que je considère que les gens sont comme des automates. Je remarque juste que ce n'est pas la peine de poser cette question.
Allez, on se retrouve dans un instant. Les messages des auditeurs arrivent et ce ne sont pas des robots qui sont avec nous. Franceinter.fr, le mot-clé, l'attaque.
Tout ça me sacre.
signe avec Jean-Louis Murat sur France Inter. Le Big Data prédictif, on en parle cet après-midi, c'est le thème de notre dossier. Vos messages, bien sûr, sur le site et sur Twitter, avec beaucoup de questions. Frédéric nous dit ceci, lorsqu'on vide sa corbeille électronique, est-ce qu'il est possible qu'un organisme de renseignement récupère les documents et les données? Alors David Bessis, Gaël Varocco, Gilles Genvy, qui veut répondre? David Bessis?
À mon avis, ils ont déjà les données, donc si vous videz votre corbeille par erreur, appelez la NSA et demandez un backup, ils vous l'enverront.
D'accord, c'est la réponse que vous faites. Donc c'est dans l'autre sens qu'il faut voir les choses. C'est que de toute façon, les données, dès qu'on les met en fait sur nos ordinateurs, elles sont récupérées?
Honnêtement, ce que fait la NSA a l'air d'être très très large. Personne ne sait exactement ce qu'ils font, mais les limites sont...
Gaël Varocco.
Donc quand même, si un ordinateur n'est pas connecté à Internet, oui, les données ne vont pas en sortir. Ce que je dis n'est pas entièrement vrai. Si cet ordinateur contient des informations très très intéressantes, on pourrait aller physiquement les prendre. Oui. C'est le problème de l'anti-espionnage. Cependant, juste de mettre des données sur un ordinateur ne suffit pas. Par contre, dès qu'on commence à utiliser les services Internet, etc., bon, il va y avoir des fuites.
Là, il faut le savoir. De toute façon, on donne quasiment nos données immédiatement. Jean-Paul demande justement, est-ce que les données personnelles sont piratées sans qu'on le sache? Complément justement à cette question, David Bessis, bah oui.
Tout dépend de ce qu'on appelle des données personnelles. Je ne crois pas que, hors des services de renseignement, je crois pas que dans le secteur privé, il y ait des endroits où on centraliserait, on brasserait les données de tout le monde. Maintenant, les données sont disséminées. Quand vous mettez une photo sur Facebook, ben, elle est chez Facebook et Facebook y a accès. Quand vous achetez quelque chose chez un commerçant, ce commerçant sait ce que vous avez acheté. Reconstituer cette image globale, par contre, je ne crois pas qu'aujourd'hui ça se fasse.
Sauf qu'une photo sur Facebook, on le fait en toute connaissance de cause. Or, des informations qu'on mettrait sur notre ordinateur, dans des documents personnels, mais avec un ordinateur relié sur Internet, là, on peut s'exposer à un piratage sans le savoir.
Mais en fait, de plus en plus, les gens ont plusieurs ordinateurs, ou un téléphone portable, une tablette, un ordinateur, et ils ont envie que les documents soient partagés. Et donc, à partir de ce moment-là, ils utilisent des services qui les partagent automatiquement. Mais ces services les mettent sur Internet. Mmh. Et c'est, je pense, là qu'on voit énormément de fuites de données, et les gens n'en sont pas forcément conscients.
Est-ce que justement toutes ces données dont on parle, qui peuvent être donc des données très personnelles a priori, elles peuvent se retrouver au sein des données qui servent au Big Data prédictif, David Bessis?
Quand on suit la réglementation, on a quand même des contraintes assez fortes. On n'a pas le droit de collecter des données nominatives comme ça. On n'a pas le droit de structurer des fichiers à partir de certains types d'informations. Donc les acteurs légaux ne font pas ce genre de choses.
Larry demande, est-ce que le Big Data peut se passer de l'intelligence artificielle? Alors Gaël Varocco, ça c'est pour vous, l'homme du cerveau.
Je trouve que c'est une question très intéressante. Donc l'intelligence artificielle... C'est un peu un vieux rêve. Si on veut le définir, c'est un peu le vieux rêve qu'on peut avoir. On peut donner à un ordinateur une intelligence qui ressemble à l'intelligence humaine. Donc être capable de faire des raisonnements abstraits sur des objets qui nous entourent. Le big data prédictif n'en a pas forcément besoin. C'est-à-dire que si j'ai besoin de savoir si oui ou non vous avez des chances d'acheter ce produit... Ça n'est pas, c'est un problème bien posé, ça n'est pas une question d'intelligence artificielle. Ce qu'il faut voir cependant, c'est qu'une grosse partie, on est en train de découvrir en recherche en informatique, qu'une grosse partie de la réponse au problème de l'intelligence artificielle consiste à apprendre à faire plein de décisions. Moi, en tant que bébé, je nais, j'apprends à reconnaître mes parents, j'apprends à reconnaître un objet, j'apprends à le manipuler. Et ça demande énormément de données visuelles, de données perceptuelles. Et donc, de nos jours, les progrès de l'informatique, en reconnaissance d'objets sur des images, par exemple, se servent de masses de données gigantesques pour apprendre à reconnaître ces images. Et ça, c'est un pas vers l'intelligence artificielle.
Oui, mais on n'a pas encore égalé l'homme? Dans ce domaine.
Ça dépend des tâches. Donc sur l'intelligence artificielle, si on la définit comme faire aussi bien que l'homme sur tout ce que fait l'homme, non, on n'a pas encore égalé. Mais bon, ça fait longtemps qu'on bat l'homme aux échecs et on est en train de battre l'homme à de plus en plus de choses.
Gilles Genvy.
Pour citer une application de l'intelligence artificielle, justement, c'est la reconnaissance des chiffres sur les enveloppes, en fait, dans les cases qui contiennent...
Pour le code postal,
pour le code postal, exactement, en fait. Donc le principe, c'est que justement, on présente à un ordinateur des exemples de 0, de 1, et après, avec des nouveaux exemples inédits de 0, il est capable de reconnaître le code postal.
Quelle que soit l'écriture.
Voilà, quelle que soit l'écriture, et il paraît qu'il fait mieux ça que l'homme, mais donc, en tout cas, on gagne en efficacité. Voilà. C'est là où on a un joli exemple d'intelligence artificielle.
David Bessis.
Il y a quelque chose d'un peu gênant dans le mot d'intelligence artificielle, parce qu'on a l'impression d'un truc un peu psychorigide. Moi, j'aime bien le mot d'intuition artificielle. Et c'est ce qui est frappant chez pas mal d'algorithmes nouveaux en machine learning, Par exemple.
Hop, machine learning, qu'est-ce que c'est?
Ah, machine learning.
Stop.
Ok. Alors, le machine learning est la discipline scientifique qui se préoccupe des algorithmes qui vont apprendre des choses à partir des données. C'est un domaine assez nouveau. Par exemple, imaginez que vous voulez trier des films comme dans un programme de cinéma où vous avez les comédies romantiques, les comédies dramatiques. Personnellement, moi, j'ai jamais compris ce que voulaient dire ces catégories. Si vous demandez à un algorithme de ranger les films en 10 catégories, les catégories qu'il va faire apparaître vont être des catégories qui vont avoir un sens très intuitif pour vous. Vous allez reconnaître des styles de films et peut-être qu'elles vont être nouvelles. Et ce genre de tâche de créativité, par exemple, est très très bien rempli par les algorithmes maintenant.
Très bien. Donc là, on parlait d'intelligence artificielle et vous, vous préférez parler d'intuition, c'est ça hein?
Intuition, puisqu'on va toucher à des choses qui sont très proches de la sensibilité et de l'intuition humaine.
Et le data mining, alors puisqu'on est dans le petit lexique du data prédictif, tant qu'on y est.
Alors, donc, formellement, le machine learning, ça correspond à utiliser des données pour résoudre des problèmes de type prédictif. Le data mining, ça correspond, donc en français, on va souvent dire la fouille de données, ça correspond effectivement à organiser les données pour trouver un petit peu de la structuration. Donc la, la différence entre les deux est bien entendu floue. Cependant, il y a plus souvent des notions de chercher des structures qu'on ne connaît pas dans le data mining. Et ça va inclure aussi apprendre à transformer les données d'une certaine manière.
Ouais. Alors, qu'est-ce qu'on utilise justement comme élément dans le Big Data prédictif? Vous parliez des adresses tout à l'heure, David Bessis, c'est ça?
On utilise ce qu'on a sous la main. C'est la grande beauté de ces méthodes. On peut rajouter des informations.
Donc, au... notre adresse Internet ou notre adresse personnelle, là où nous vivons?
Là où vous vivez, votre code postal révèle des choses sur vous.
Ça dit des choses de nous, oui.
Je ne vous surprendrai pas en disant que si vous habitez au sud de la Loire, vous allez acheter plus fréquemment des barbecues que vous, si vous habitez à Paris.
Donc on utilise par exemple des adresses.
On utilise des adresses, on utilise des prénoms, on utilise évidemment l'historique d'achat.
En quoi ça joue le prénom par exemple?
Écoutez, si je vous dis que quelqu'un s'appelle Marie-Chantal ou Jessica, vous faites une idée de ce qu'il y a derrière cette personne. Vous dites peut-être que la housse de téléphone Hello Kitty, vous avez plus de chance sur les... C'est pas forcément pour...
C'est des exemples grossiers, on va dire.
C'est des exemples grossiers.
Mais qui illustrent vraiment... Parce que vous, vous affinez, votre travail, c'est d'affiner.
Évidemment,
hein.
Évidemment. Mais ça veut dire qu'en fait, on fait, nous, humains, tous les jours, ce genre de choses. Vous voyez quelqu'un arriver avec des vêtements. Vous avez aujourd'hui un pull rouge et une chemise blanche.
Oui.
Ça dit sans doute quelque chose sur vous. Vous seriez en costume gris, ça dirait autre chose sur vous. Donc, le... Toutes ces informations qui vont être rattachées à une personne, quand on a de grandes échelles, des millions de personnes, et on est capable d'apprendre qu'il y a des patterns, des corrélations entre ces prédicteurs et des comportements futurs.
Alors, prédire nos comportements, mais jusqu'où? Exemple par exemple, avec ce film, L'armée des 12 singes, on en discute juste après.
Pendant mon séjour à l'asile, ils ont étudié mon cerveau de façon intensive. On a de la recherche médicale. On m'a interrogé, on m'a radiographié, on m'a examiné de partout. Ah ! Puis ils ont entré toutes les données me concernant dans un ordinateur, grâce auquel ils ont créé un modèle de mon esprit. Oui, monsieur. Ensuite, grâce à ce modèle, ils ont réussi à générer toutes les idées que j'étais appelé à avoir, disons, dans les 10 ans. Lesquelles idées? Ils ont soumis au calcul de probabilité grâce à un appareil extrêmement performant, de sorte que ils ont pu déterminer tout ce que j'allais faire au cours de cette période. Ce qui explique qu'elle ait su que j'allais utiliser l'armée des 12 singes pour écrire une page de l'histoire du monde bien avant que je le sache moi-même. Elle connaît exactement mes moindres intentions avant même qu'elles me viennent à l'esprit. Qu'est-ce que tu dis de ça?
Il est sérieusement atteint.
Est-ce qu'il est vraiment sérieusement atteint, Garella ou quoi? Est-ce qu'un jour on pourra véritablement prédire ce que nous avons aussi dans la tête et l'anticiper?
Donc c'est quelque chose qu'on fait partiellement déjà. Par exemple, dans mon institut de recherche.
Ouais.
Donc, si on va utiliser un appareil d'imagerie cérébrale, que ce soit un scanner IRM ou des appareils plus petits qui mesurent juste, enfin, qu'on peut juste placer sur le crâne, on peut donc recueillir des signaux d'activité cérébrale et s'en servir pour prédire un certain nombre de choses. Une expérience, par exemple, historique assez impressionnante, c'est une expérience où on a commencé par montrer à quelqu'un qui était à l'intérieur d'un imageur cérébral, d'un scanner, on a commencé par lui montrer un certain nombre d'images que cette personne a regardées. Pendant que cette personne regardait les images, activait son cerveau d'une certaine manière. Et puis après, on lui a demandé d'imaginer les images en question. Et juste en regardant l'activité du cerveau, on pouvait savoir à quelle image la personne pensait. Donc ça, c'est un exemple de big data prédictif.
Ouais. Ben oui, je vois les yeux de David Bessis qui brillent. Il a dit, ah mon Dieu, c'est formidable, encore de nouvelles parts de marché.
Non, je raisonne là-dessus, pas en part de marché. Le sujet est bien trop important pour ça, honnêtement. C'est une vraie révolution scientifique qui n'est pas une affaire de quelques années. On est honnêtement au tout début. Mmh. Et il y a quand même des vraies limites. On ne pourra pas quand même tout prédire. Il y a des limites à la connaissance. Ce qui est intéressant, c'est que le machine learning, cette discipline scientifique, se pose la question de ses limites. Et au cœur de sa méthodologie, il y a la question de savoir ce qu'on a appris, est-ce que c'est vraiment correct ou est-ce qu'on a juste surappris, appris par cœur sur un exemple et extrapolé à tort.
Donc il y a beaucoup de questions qui se posent et puis une réflexion éthique, hein, évidemment, autour de ces problèmes de big data prédictif. Beaucoup de questions des auditeurs, je vous les transmets dans un instant. Clash sur France Inter, Big Data prédictif avec mes invités David Bessis, Gaël Varocco, Gilles Genevi. Vos messages très nombreux et pour illustrer notre conversation, un nouvel extrait de ce documentaire Big Data, les nouveaux devins. On entend Edward Snowden dans cet extrait qui raconte justement comment du temps de son travail à la NSA, l'agence nationale de sécurité américaine, il s'est aperçu que les services secrets se servaient directement dans les bases de données des géants du net.
Même si vous n'avez rien à vous reprocher, vous êtes surveillé, enregistré. Je pouvais vous surveiller de mon bureau, vous ou un juge fédéral, ou même un chef d'État étranger, si j'avais son adresse mail. Des sociétés comme Google, Facebook, Apple, Microsoft ont toutes travaillé main dans la main avec la NSA. Elles ont fourni un accès direct à tous leurs systèmes de communication, au stockage de leurs données qui disent tout de nos vies, y compris les messages que vous recevez pour votre anniversaire.
Voilà, Edward Snowden. Et beaucoup de questions, évidemment, des auditeurs sur l'aspect juridique, hein, autour du big data prédictif. Gino nous dit ceci. Quelle sorte de CNIL sur un plan international pourrait édicter des règles communes de déontologie, David Bessis?
Ça reste à inventer. C'est évidemment un sujet qui préoccupe beaucoup d'acteurs. Ce qui est important, c'est de prendre conscience que ce n'est pas juste un danger, qu'il y a une vraie demande aussi de personnalisation, de pertinence dans la communication. On est tellement abreuvé d'informations qu'il faut les structurer.
La part du consommateur aussi, cette demande, elle existe.
Bien sûr, bah on voit que les contenus qui vont être personnalisés sont beaucoup mieux reçus. Oui. Ça se mesure en termes de taux d'engagement, de taux de désabonnement. Mm-hmm. Il n'y a aucun doute. Et les gens se plaignent quand ce n'est pas pertinent.
Suzette nous dit, est-ce qu'il est plus risqué pour la protection de sa vie privée d'avoir une adresse de messagerie hébergée par un fournisseur américain obligé de fournir ses données justement à la NSA ? David Bessis ?
Ce que je pourrais dire, c'est que probablement oui, c'est parce que ces données quittent le territoire français et sont soumises aux règles américaines. Après, ce qui est intéressant, c'est de voir que les gens vont avoir tendance à utiliser certains fournisseurs d'adresses e-mail américains parce qu'ils proposent plus de valeur ajoutée. Mm-hmm. Et cette valeur ajoutée vient entre autres de l'analyse des données. Donc on perd quelque chose, mais on gagne quelque chose.
Michel nous dit, c'est pourquoi il ne faut pas avoir de carte de fidélité, ne payer qu'en liquide, ne pas acheter sur Internet, ça évite un peu d'être pourchassé via ses emails ou ses SMS. C'est compliqué,
choix,
hein.
C'est
compliqué aujourd'hui de résister.
Il y a les deux tendances.
Bénédicte nous dit ceci, est-ce que le big data prédictif peut donner des informations sur notre santé ? Y a-t-il des projets dans ce domaine ? Alors oui, parce qu'on parle beaucoup du marché, de la consommation, mais dans le domaine médical aussi, Gaël Varocco, il y a des choses très intéressantes.
Oui, il y a des choses passionnantes et je pense qu'on ne fait que commencer. Donc c'est vraiment utilisé dans de plus en plus d'endroits, bien sûr, enfin, dans la recherche sur l'imagerie cérébrale, mais aussi des choses aussi simples qu'on commence à savoir en utilisant le timbre de votre voix, on commence à pouvoir détecter de façon précoce si vous avez des chances d'avoir la maladie de Parkinson ou non.
Au timbre de la voix ?
Au timbre de la voix, exactement. Donc ça peut avoir un impact, donc c'est encore de la recherche en cours, mais ça peut avoir un impact gigantesque parce que ça serait une technologie qui serait très bon marché pour détecter de façon précoce Parkinson. Ouais.
L'idée, c'est quoi ? C'est d'essayer de faire une sorte de carte d'identité justement qui pourrait, à moyen ou à long terme, prédire nos futures maladies ?
Alors ça, ce serait l'une des nombreuses applications. Donc c'est tous les problèmes de détection précoce. Et donc effectivement, l'idée, c'est si on va utiliser plus de capteurs et des capteurs meilleur marché, micro, un téléphone portable pour enregistrer une voix, c'est un capteur qui est très très bon marché comparé à un scanner IRM. Mm-hmm. Et donc on a des signaux qui sont de plus en plus compliqués à comprendre et difficiles à analyser, d'où la nécessité de les accumuler et de faire du big data. Ouais.
Mais on a entendu parler récemment, ces dernières années justement, de l'aide des internautes par rapport aux épidémies du virus. De la grippe. Donc ça, c'est un exemple aussi d'utilisation du big data prédictif ?
Oui, tout phénomène qui rassemble des millions de gens va permettre de détecter des phénomènes de société ou des phénomènes de foule. L'exemple de la grippe est assez frappant.
Oui, voilà, les algorithmes...
Ils vont chercher un certain nombre de mots-clés qui vont être associés, par exemple, à tel symptôme ou à une recherche de tel médicament. Et selon l'évolution même géographique, d'où viennent les recherches, on va pouvoir suivre la propagation de façon extrêmement fine.
Gilles Genevie, Brigitte nous dit ceci. Si on nous préconise des films, par exemple, suivant nos choix précédents, quelle place laisse-t-on à la découverte ? C'est une réflexion que vous êtes posée, j'imagine.
Oui, un petit peu. En fait, le principe, c'est pour décrire très brièvement en fait, comment on pourrait faire, par exemple, pour recommander des films. En fait, le système, il essaie d'identifier des personnes qui ont des goûts similaires, de manière à recommander à un utilisateur des films qu'il n'a pas vus, que d'autres gens qui lui ressemblent ont aimé. Mm-hmm. Et en fait, on peut partir du principe que si des gens sont suffisamment esthètes et qui aiment plusieurs types de films différents, ils se retrouveront dans les profils qui nous sont proches. Et donc, c'est là que vient la sérendipité, en fait.
Ouais, c'est ce que fait Amazon aussi, hein, quand on achète un album, par exemple. Mais comme par hasard, on nous en propose 10 autres à côté d'autres artistes parce que ça peut correspondre, a priori, à nos goûts. Hein. Mm-hmm. Donc ça, on est sur le même principe. Gilles Genevie, vous avez fait votre thèse grâce à Akinator. Qui est Akinator ?
Alors, donc, c'est ce système que j'avais, en fait, lorsque j'étais lycéen, qui apparaissait sur le net, qui devinait, en fait, à partir de questions, quelle était la personnalité à laquelle on pensait. Mm-hmm. Et alors comment ça marche, en fait, l'algorithme est secret, mais en fait, il se base sur un équivalent anglais dont le brevet, en fait, est disponible directement en ligne, qui s'appelle 20Q.net. Mm-hmm. Et le principe, c'est en fait qu'il renforce, en fait, il n'a absolument aucune idée des questions qu'il pose, il attribue des poids qui sont des liens entre les questions et les personnalités, et donc des coefficients qui sont d'autant plus forts ou d'autant plus faibles, et selon si la connexion est importante ou pas. Et c'est à partir de là, ça s'appelle un réseau de neurones qui peut deviner, en fait, avoir une vraisemblance de à qui la personne peut penser.
C'est ça, donc on joue avec l'ordinateur, en fait.
Oui, c'est ça.
On joue avec l'ordinateur, donc on est là et on imagine, on pense à un personnage célèbre, par exemple, dans sa tête, et Akinator va le deviner en nous posant des questions.
En posant des questions, et nous, on répond seulement par oui ou par non, il arrive à trouver. Et si ça marche, c'est parce que, justement, il y a 30 millions de connexions par mois sur ce site. Et c'est ça qui permet, en fait, aux gens de... en fait, de collectivement permettre d'enrichir son intelligence. En fait.
Ouais, donc c'est très participatif, au fond. Il y a aussi cette idée dans le Big Data prédictif, il y a du participatif et du communautaire.
C'est apprendre à partir des comportements de foule.
Bon. Qu'est-ce qu'on fait de toutes ces données? Alors, comment l'ordinateur parvient justement à utiliser toutes les personnes qui lui donnent ces informations? Parce que le but, c'est de poser le moins de questions possible, ou en tout cas d'être le plus fin possible.
Oui, c'est ça. Ben, du coup, justement, ces coefficients dont je parlais entre questions et personnalités, ils sont mis à jour. C'est-à-dire qu'en fait, au fil du temps, à partir d'événements récents, il y a plus de gens qui vont jouer une certaine personne d'une autre. Mm-hmm. Et l'intérêt, c'est justement que ce soit souple, en fait, suffisamment souple pour pouvoir s'améliorer au cours du temps. Et c'est ça qui fait que, comme ça existe depuis très longtemps, bah, le système s'améliore. Alors, on peut voir d'autres applications des tests adaptatifs, par exemple, éventuellement une sorte de diagnostic, de savoir à partir des symptômes, quel médicament il me faudrait, pour rester sur cette forme de test.
Ouais, donc ça, on pourrait utiliser ces outils pour ce type d'application. Est-ce que ça existe déjà, Gaël Varocco, ou pas? Ou on en est vraiment pour l'instant
si
à l'état de projet?
Je ne sais pas si c'est utilisé en clinique, mais c'est certainement utilisé en recherche. Mais bon, ça va venir de plus en plus. Je pense que l'une des raisons pour lesquelles le marketing est un domaine dans lequel ça a pris énormément d'essor, c'est que le risque opérationnel de faire une décision en marketing, si je me trompe, ça ne va pas me coûter extrêmement cher. Mmh. Alors qu'en médecine, ça peut me coûter extrêmement cher. Donc ça met plus de temps, mais ça va venir de plus en plus.
Mmh. Raphaël nous dissocier, est-ce que vous pensez que le plus grand nombre de citoyens souhaitent cette évolution big data? Est-il souhaitable justement que les citoyens soient aussi finement calibrés, analysés? David Messis,
ce qui est important, et l'exemple de la santé est important, c'est qu'on ne se soucie pas forcément de savoir qui est derrière une identité. En médecine, c'est intéressant de savoir qu'une personne qui a eu tel traitement à un moment donné va des années plus tard avoir des effets secondaires de ce traitement. Et ça, ça ne peut se faire qu'avec du big data. Mais pourtant, le but n'est pas du tout une intrusion dans la vie privée. Donc tout va dépendre des cas d'usage.
C'est ce qu'on disait tout à l'heure, justement, en proposant le premier extrait du documentaire. C'est le bon équilibre entre l'intrusion véritablement dans la vie privée et les propositions finement réfléchies. Ça, c'est important parce qu'on peut avoir aussi l'effet boomerang de la part du consommateur. Hein.
C'est critique et ça nécessite une réflexion éthique qui va se traduire par certaines lois. Mais d'un autre côté, c'est une évolution des techniques qui peut et qui va être utilisée pour avoir une meilleure société, une meilleure santé, des meilleures décisions.
Claire nous dit ceci, on parle des entreprises américaines, de la NSA, mais la DGSE ne sert-elle pas également aux entreprises françaises? David Bessis.
À certaines peut-être.
Dites-nous ce que vous savez.
à ma connaissance, pas directement.
Nous sommes entre nous.
Pourquoi pas?
Bon, Gilles Varocco, pas plus d'informations à ce sujet à nous donner?
Non, on a des cadres légaux clairs en France. Bon, on ne peut pas faire ce qu'on veut avec les données.
Il y a beaucoup d'auditeurs qui se demandent si on ne va pas tous devenir parano avec ces systèmes qu'on utilise.
Ce qu'on voit, c'est que les jeunes générations apprennent à les utiliser en comprenant l'implication que ça a. Et donc, ce qu'on voit, c'est qu'il y a aussi une évolution de la manière dont on utilise ces services.
Merci beaucoup à tous les trois pour cette découverte, pour la plupart en tout cas d'entre nous, des usages du Big Data prédictif. Merci à vous. Bonjour Fabrice Drouel.
Bonjour Mathieu.
Vous connaissiez ça, vous, Fabrice, le Big Data prédictif?
Non, mais l'affaire dont je vais vous parler, data de 1983 à 1987, il s'agit de l'affaire des GAL, groupe antiterroriste de libération contre l'ETA, qui employait, c'est le problème, des méthodes terroristes. C'est donc du terrorisme d'État, l'État espagnol, et l'État français aussi était impliqué dans cette affaire.
Nous
parlerons justement avec la géopoliticienne Barbara Loyer, auteure de l'ouvrage Géopolitique de l'Espagne.
Ce sera donc tout à l'heure dans Affaires sensibles, juste après les infos. À tout à l'heure, Fabrice.